I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut à tous et bienvenue dans le FC Stream Team. Je suis Martin Mosnier, journaliste à Eurosport. Il est le Jean-Pierre Pernaut de ce FC Stream Team, pierre angulaire de l'émission. Incontournable monument d'Eurosport quand il marche dans les couloirs de l'entreprise. On voit l'admiration teintée d'émerveillement de ses collaborateurs. C'est un totem, un label à lui tout seul, une légende, et chacun mesure aujourd'hui la chance de le côtoyer au quotidien. Si vous nous écoutez en podcast, c'est bien dommage, car vous passez à côté de son physique d'Apollon, couplé à sa stature à faire pâlir d'envie, Cristiano Ronaldo. C'est un corps divin, mais avant tout un esprit vif, malin, acerbe. C'est la perfection incarnée en un seul homme. Et si je n'ai qu'un seul regret dans ma vie, c'est de ne pas être lui. Et je ne dis pas ça uniquement parce qu'il est mon patron et qu'il m'a demandé de le faire si je veux un bonus de fin d'année. Comment ça va, Maxime Dupuis ?
Bah écoute, ça va, mais là, j'ai un petit problème. Là. J'ai l'impression que tu étais en train de faire ce qui ressemble à Manécro, quoi.
Mais non, je veux juste mon bonus de fin d'année, c'est tout, moi. Hein. Après, voilà.
Ah, parce que là, c'était un peu mon bonus de fin de vie, là, pour moi, non ?
Et je lis le texte que tu m'as généreusement envoyé 5 minutes avant le début de l'émission.
Oui, parce que j'écris tous tes textes, c'est bien connu. C'est moi qui fais toute l'émission et tu n'es juste... T'es un peu mon tataillé.
C'est ça. Sauf... Alors, explique... qui est Tataillé, parce qu'il y a quand même des jeunes.
Mais Tataillé, c'était la marionnette. Bah, c'est quoi ? C'est Jeff Panaclock maintenant.
Voilà, exactement. Ouais, mais alors, voilà, ce qui m'inquiète, c'est où est-ce que tu mets la main, du coup ?
Eh voilà, c'est bien le problème. On va pas aller plus loin, c'est qu'il y a de lire.
Je ne suis qu'une marionnette de Maxime Dupuis.
Tu n'es qu'une marionnette, mais c'était très beau en tout cas. Je te remercie ou je me remercie, je sais pas, mais.
Mais tout est faux, hein, en l'occurrence.
Et tout est faux, voilà.
Sauf le physique d'Apollon.
Voilà, et juste un truc encore, on parlait juste avant de cette émission, tu m'as fait une petite confidence qui m'a illuminé, je ne sais pas quoi en faire. On parlait des matelas Merinos et tu m'as dit que c'était l'anagramme de Mosnier Merinos, c'est bien ça ?
Eh ouais, ouais. Voilà, qu'est-ce qu'on en fait ? Je ne sais pas, on se réveille en beauté le matin.
Voilà, le matin des réveils en beauté, voilà, sinon à part ça...
Merinos, pour ceux qui sont très jeunes
C'est un peu comme Tataillé.
Ouais, c'est des matelas. C'était des matelas quand on était jeune. Il y avait une pub, Merinos le matin des réveils en Mosnier.
Le mec marchait
en beauté, pas en Mosnier d'ailleurs.
Et le mec marchait sur le plafond, si je me souviens bien.
C'est vrai.
C'était assez fort d'ailleurs. Exactement.
Est-ce qu'on démarre ou est-ce qu'on reste un peu sur les pubs de notre enfance ?
Bon, écoute, on va démarrer. Mais attends, avant de faire le lancement et avant de faire les sujets, on va déjà une bonne nouvelle. Alors, c'est un petit cadeau de Noël pour nos auditeurs. Nos viewers, sur tout ce que vous voulez. On a un petit cadeau à vous faire, deux codes pour le jeu Football Manager 2021. Vous connaissez tous Football Manager, c'est le jeu, vous commencez à 8h du matin, vous levez la tête, il est 23h parce que vous n'avez pas lâché le jeu, parce que c'est complètement passionnant. Donc on a deux codes à vous faire gagner pour avoir le jeu Football Manager 2021. Pour ce faire, vous partagez l'émission sur notre page Facebook.
Et si vous nous écoutez en podcast, vous allez sur le Facebook d'Eurosport et vous partagez l'émission. Ça marche aussi. Hein. On rappelle qu'il y a trois façons de consommer.
Alors, Martin, comment on fait pour nous consommer ?
Alors, pour consommer Maxime, déjà, il faut un bon appétit, hein, parce qu'il y a quand même un sacré tas de viande. Donc, c'est soit un live sur Facebook, soit les meilleurs moments de l'émission qui sont découpés sur notre site eurosport.fr, soit en podcast pour l'intégralité audio. Et là, vous n'êtes pas obligé de supporter nos bobines. Et c'est sur toutes les bonnes plateformes de podcast, Deezer, Acast, Apple Podcast, Google Podcast, tous les podcasts. Quoi.
Finalement. Alors, en parlant de tas de viande, pour ceux qui nous suivent, vous savez que vendredi, maintenant, c'est un peu notre rendez-vous. C'est le rendez-vous burger. On se prend tous un gros burger, ceux qui préparent l'émission, en respectant évidemment les distances de sécurité. Ben, Martin, il l'a tellement bien respecté qu'aujourd'hui, il n'était pas là. Et donc, on s'est mangé un bon gros burger, Martin, pendant que toi, tu mangeais ta petite salade.
Petite salade de mâche, voilà. Parce que les fêtes arrivent et qu'à un moment donné, il faut préparer. Mais seulement, Maxime, qu'on a pris l'antenne il y a 10 minutes.
Tu viens d'ouvrir un sujet. Tu trouves pas que la salade de mâche est quand même la salade la plus sous-estimée des salades ?
Bah, moi, j'aime bien. Moi, franchement, j'aime bien. Je prends dans le petit sachet prélavé. Ouais, ça me prend deux secondes. Petit filet d'huile d'olive et vogue la galère, quoi.
Et avec les pousses d'épinards.
Pousse d'épinards et je rajoute quelques petits cerneaux de noix. Voilà, hein, je les ai là, les cerneaux de noix que je ne mange pas.
Et un peu de gésier aussi.
Ah non, non, je ne vais pas jusque-là. Là, arrête, tu vas faire venir tout le monde. Bon, alors Maxime, de quoi on va parler? Le sommaire de l'émission, on va démarrer avec André Villas-Boas, c'est tout chaud. Si vous nous écoutez ce vendredi, André Villas-Boas vient de faire sa conférence de presse. On va revenir sur la semaine agitée de l'OM et d'André Villas-Boas qui a eu voilà, un petit problème avec un journaliste de la Provence. Est-ce que l'OM est à cran? Est-ce que Villas-Boas est à cran lui aussi? Ce sera le premier sujet de cette émission, Maxime. Et ensuite, on filera du côté de la FIFA.
Ouais, de la FIFA, non pas pour parler d'affaires, mais pour parler des FIFA The Best. Vous connaissez pardon, les awards. La FIFA, comme Eurosport, a élu Robert Lewandowski, joueur de l'année. Jusqu'ici, rien à dire. Mais on est toujours plus embêté quand on regarde les équipes de l'année ou le podium notamment, qui nous a laissé un peu pantois. Eh ben, on va se poser la question, est-ce que les votants votent avec leurs pieds ou pas? Parce qu'il y a des fois, il y a des trucs qui nous paraissent complètement dingues et on va un peu les rappeler, expliquer aussi ce que c'est FIFA The Best.
On ira ensuite à Lille où l'avenir de Christophe Galtier est quand même hein, s'inscrit en pointillé aujourd'hui. Vous savez que Gérard Lopez va laisser la main à Olivier Létang du côté du LOSC. Et il y a une fidélité sans faille hein, qui liait Christophe Galtier à son président. Luis Campos lui aussi va s'en aller, va se retrouver un peu tout seul. Et on va se demander si tout leader de Ligue 1 qu'il est, est-ce qu'il ne va pas devoir quitter Lille au sommet, Christophe Galtier?
On y va alors, on va démarrer avec l'Olympique de Marseille.
Et on a un dernier petit...
Ah oui, c'est vrai, pardon.
Un dernier petit bonbon.
Et Rémi va nous en vouloir, Rémi qui est notre CM, qui a organisé une consultation cette semaine sur Eurosport.fr, qui était la question suivante. Vous savez que Zinedine Zidane a dit que Benzema était pour lui le meilleur attaquant français de l'histoire. Et ben nous, on ne s'est pas mouillé, mais on vous a demandé de voter, donc on vous dévoilera votre top 5. Je dis bien votre top 5. Et évidemment, on donnera notre avis avec Martin. On va voir si vous avez du goût, si vous êtes assez logique, ce dont je ne doute pas, puisque vous nous écoutez.
Exactement. On démarre, Maxime, avec l'OM et André Villas-Boas, avec un petit rappel des faits pour ceux qui se tenaient un peu à côté de l'actualité footballistique ces derniers jours.
Alors, Villas-Boas, André de son prénom, a eu quelques problèmes avec la Provence ces derniers temps, et notamment avec un article qui lui a déplu. Il l'a fait savoir, et du coup, il y a une réponse dans la Provence où on parlait de lui comme Dédé l'énervé, l'Aristo de Porto, toutes ces choses-là pour répondre à l'entraîneur. Et tout ça, c'est pas très très bien terminé mercredi après la défaite de l'OM à Rennes, puisqu'il y a eu une altercation avec le dit journaliste, et c'est allé assez loin, puisque selon les observateurs et les témoins de la scène, c'était quasiment du, je cite, front contre front, et Ricardo Carvalho qui a dû les séparer. D'ailleurs, c'est très étonnant, c'est marrant que ce soit Ricardo Carvalho, l'ancien défenseur de Chelsea, qui sépare tout le monde. Voilà. Donc, c'était très, 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 très chaud. Et on va faire un petit bond en avant pour vous parler de la conférence de presse de l'Olympique de Marseille de ce vendredi midi. Elle s'est terminée il y a peu. Et André Villas-Boas, après que les journalistes se soient levés à son entrée, a tenu à mettre les choses au point avec ce texte-ci que voilà.
Mais j'ai mal vécu comme personne les deux articles que pour moi attaquent ma dignité et intégrité comme professionnel et comme personne. J'ai eu la réaction qu'une personne ne peut pas avoir. Je la regrette et je suis prêt à m'excuser devant le journaliste. J'ai eu Franck McCourt hier soir pour clarifier mes actions. Je reste concentré uniquement sur l'OM, sur notre joueur, sur notre staff et tous ceux qui aiment l'OM. Maintenant, je vais passer à autre chose, car il y a deux matchs qui restent, qui sont extrêmement importants avant la trêve, et c'est sur l'OM que je vais être concentré. Merci pour votre compréhension, je laisse ça.
Merci.
De toute façon, pour que ça finisse, je suis un peu surpris que vous avez choisi cette semaine.
Alors André Villas-Boas a un peu aplani les choses. Il a expliqué qu'il avait parlé à Franck McCourt. Je pense que Franck McCourt lui a dit aussi que ça ne se faisait pas. Franck McCourt est américain. Franck McCourt sait comment ça se passe dans le sport américain. Et ce genre de petit dérapage est souvent très sanctionné par les ligues américaines. Donc je pense que là, il a pris un gentil petit taquet. En substance, il dit quoi? Il regrette la forme, mais pas le fond, parce qu'il apprécie toujours peu l'article et sa dignité était touchée, je vous le rappelle, Dédé l'énervé, l'Aristo de Porto, je pense que c'est ça qu'il a mal pris. Et Villas-Boas, on a fini par l'oublier aussi, parce que on l'a vu l'année dernière, c'était un type très, très jovial, très sympa. Bah, il ne faut pas lui chier dans les bottes, mais c'est un peu ça. Il est un peu orgueilleux, pour faire simple. Donc voilà, c'est un peu ressorti. Et Martin, ce qui est étonnant quand même, c'est que ça ressort beaucoup cette année, cette facette d'André Villas-Boas qui a tendance à s'énerver beaucoup, alors que si on fait le constat, en Ligue 1, ça marche très bien, Mais il y a la Ligue des Champions qui le titille un peu. Et cet échec sur le premier tour avec 5 défaites.
Alors, il y a eu une montée en puissance d'Elias Boas. Il s'en est pris à Christophe Galtier après le match face à Porto. On sait que Eric Dimeco avait lu en direct les SMS de Christophe Galtier et ça n'avait pas du tout plu à André Villas-Boas. Il a été expulsé à Nîmes pour avoir applaudi l'arbitre. Il a durci le ton aussi lors d'une conférence de presse, si on s'en souvient, où il disait aux journalistes, déjà, il défendait très fort Dimitri Payet en disant bah voilà, quand tout va bien c'est le meilleur, quand tout va mal c'est le pire. Et c'était en fait des propos teintés de reproches vraiment à son auditoire déjà, donc le ton montait entre lui et les journalistes. À un moment il a dit qu'il n'en pouvait plus des questions sur le système aussi, qu'il en avait marre de tout ça. Et avec donc cette sorte de mauvaise apothéose, le front contre front avec un journaliste de la Provence, ça dénote quand même une certaine nervosité qui est claire du côté de l'Olympique de Marseille. Pas que d'André Villas-Boas. On a vu Florian Thauvin célébrer son but la semaine dernière en se bouchant les oreilles. L'air de dire, vos critiques, je les écoute pas. Moi, je continue de marquer, je continue à faire des passes décisives. Le communiqué de presse de l'OM hier qui comptait les nombres de cartons jaunes par équipe et qui montrait que l'OM était l'équipe qui avait le plus de cartons jaunes par faute commise, dans une communication, si on est gentil, on va dire maladroite. Si on est méchant, on pourrait dire même carrément ridicule. On a l'impression d'un coach et d'un club qui sont un peu à cran. Alors, comment on explique ça ? Maxime, tu le disais, c'est quand même un club qui, potentiellement, s'il gagne ses matchs en retard, est en tête de la Ligue 1. Donc, on pourrait se dire que tout va bien. Mais il y a cette campagne européenne qui a été vécue, et je pense qu'on le sous-estime, qui est une blessure profonde, très profonde, qui a marqué Villas-Boas et le club de l'Olympique de Marseille. Ça a laissé des traces dans les esprits. Il y a eu des critiques très fortes. Hein. On était les premiers ici à les critiquer très fort, les Marseillais, sur cette campagne désastreuse. Il s'avère que c'était une campagne désastreuse. Il s'avère que c'était un groupe qui était jouable, que l'OM a terminé dernier, et que derrière Olympiakos notamment. Et que je pense que voilà, ils l'ont très très mal vécu. Et quoi qu'il se passe derrière, c'est un échec qui va marquer la saison. Alors, sauf s'ils sont champions de France, je pense que voilà. Mais et pourquoi ? Parce qu'il y avait une campagne précédente qui s'était déjà mal passée, et je pense que il y avait un besoin de faire briller l'OM. On sait que l'OM vit beaucoup par l'Europe quand même. On se souvient notamment de ce magnifique parcours en Ligue Europa en 2018. Et on sent une équipe fragilisée voilà par ce parcours en Coupe d'Europe. Alors il y a deux façons de le faire. Il y a soit cette façon Villas-Boas de rentrer dans l'art, de faire un peu bouc émissaire, enfin tout le monde, de faire un peu celui contre lequel tous les reproches sont adressés. Il y a Florian Thauvin qui s'en prend aussi aux critiques, ou comme Dimitri Payet qui lui pour le coup dit j'ai pas le niveau, je suis pas Dieu dans une interview à l'équipe, et donc qui fait un peu ses excuses, son mea culpa. Il y a deux façons de communiquer, mais on sent en tout cas que c'est un club meurtri par ce parcours en Ligue des Champions, Maxime.
Ouais, il faut jamais oublier ce que représente la Coupe d'Europe à Marseille. Là, ça peut faire sourire avec leur parcours, mais n'empêche que la Coupe d'Europe à l'OM, c'est tout. Il y a une vraie culture européenne. Encore une fois, c'est pas représentatif des résultats. On va pas rappeler que c'est le seul club à avoir gagné la Ligue des Champions. C'est aussi le seul club à avoir joué 5 finales européennes. Et donc, ça pèse dans un club comme ça. Donc, c'est vrai que au niveau des observateurs, des journalistes, puisque c'est eux de la Provence, ça pèse parce que l'Europe et Marseille, il y a quand même une vraie histoire. Voilà. Après, c'est vrai que moi, j'ai rarement vu ça à un tel niveau, j'allais dire, d'énervement, alors que le club, finalement, OK, ils se sont fait sortir en Coupe d'Europe. Mais entre-temps, à chaque fois, à chaque défaite, c'est remarquable. L'équipe relevait la tête. Là, si vous, quelqu'un qui a dormi pendant 10 mois, vous le réveillez aujourd'hui, il va vous dire, l'OM est 12e du championnat. Mais non, l'OM n'avait pas perdu à l'extérieur. Depuis un an, l'OM restait sur 5 victoires d'affilée en championnat. Donc c'est bizarre, ce moment est un peu bizarre. Et si je devais défendre un peu Thomas Tuchel et André Villas-Boas, c'est marrant que ces deux entraîneurs-là, cette année, ont tendance à un peu péter les plombs, alors que finalement, leur situation n'est pas complètement inconfortable, surtout celle de Villas-Boas, qui a priori est presque plus proche d'une prolongation que de partir du club l'été prochain. Je pense qu'il ne faut pas sous-estimer la fatigue mentale qu'il y a sur ces entraîneurs-là. Ils sont dans des grands clubs, sous le poids des médias. Et on est tout le temps en train de dire bah, les joueurs, c'est difficile parce que le Covid, parce que ceci, parce que cela. Bah, je pense aussi que c'est difficile pour les entraîneurs. Voilà. Après, ça n'excuse pas tout. Son comportement, il l'a reconnu mercredi à Rennes, n'est pas possible. Même si les mots l'ont meurtri, voilà, il ne peut pas se mettre front contre front contre un journaliste. Et c'est marrant parce qu'il avait donné une interview, justement, tu en as parlé très vite, une interview où il avait un peu commencé à changer de ton. Et on va vous la faire écouter. Et ça dit aussi tout de la franchise de Villas-Boas, parce qu'en disant qu'il ne veut plus parler avec les journalistes, il est aussi en train de dire « Moi, avec moi, je suis franc, vous pouvez venir me voir, je suis ouvert. » Et bien là, finalement, en ce moment, on est en train de voir que Villas-Boas a les défauts de ses qualités, c'est-à-dire qu'on peut lui dire ce qu'on veut, mais lui, il a aussi le droit de vous répondre ce dont il a envie.
Vous savez qu'avec moi, vous pouvez être ouvert et je pouvais donner l'explication, mais j'ai un peu plus avec le système par ici, par là. C'est pas le système, c'est pas Payet en 10, c'est pas le losange, c'est pas le 3, le 5. Parce que ça, après, si on perd avec le losange, ça va être le système et la réponse doit être la autre. Alors sincèrement, on doit arrêter avec ça.
Tout ce que cette histoire nous dit, c'est que bah, finalement, tu l'as dit avec Thauvin, les oreilles bouchées. Je crois qu'en plus, le matin même, le quotidien L'Équipe avait fait un sujet sur Thauvin, justement. Je crois que c'est le même jour. Et ça casse un peu le mythe du footballeur qui ne lit pas la presse. Hein. Non, nous, on ne lit pas la presse. Hein. On regarde jamais. Eh oui, mon œil, ils voient très bien, ils savent. Et ça les touche, et c'est normal. Et Villas-Boas, lui, il n'a jamais dit qu'il ne lisait pas. Mais justement, lui, à l'inverse, il doit trop lire. Donc moi, j'ai un conseil à faire aux Marseillais. Prendre un peu de recul avec les médias. Sur le terrain, en championnat, c'est plutôt bien, tu l'as dit. Ils sont potentiellement premiers. Qui s'occupe du terrain ? Qui s'occupe de l'arbitrage ? Alors, ce n'était pas très fin de la façon de le faire, parce que notamment ce matin encore, sur le site d'Olympique de Marseille, il y avait en une les statistiques sur les cartons. Et je trouve que ça, ce n'est pas digne d'un grand club, là, tout simplement. Il y a d'autres choses à raconter. Ils peuvent s'en plaindre en sous-main, ils peuvent le dire en conférence de presse, ils peuvent s'étonner, ils peuvent parler de Turpin qui, selon Villas-Boas, est autoritaire, ce qu'il veut. Voilà, c'est vrai qu'ils ont beaucoup de cartons, ils ont deux matchs en moins que les autres, ils en prennent plus que les autres, ok. Mais après, il faut peut-être analyser le tout et voir pour quelle faute ça tombe, voilà. Mais encore une fois, ce qui est dingue, c'est qu'il n'y a pas le feu à l'OM. N'empêche que l'incendie, des fois, on a l'impression qu'il vient un peu de l'intérieur et c'est presque dommage pour le club.
Mais tu as tout dit quand tu dis que c'est pas digne d'un grand club. Mais tout ça, tout, rien n'est digne d'un grand club dans ce qui se passe. Ça témoigne quand même d'un état de fébrilité dans lequel on pensait pas. Parce que ça arrive quand même après une défaite aussi. Hein. Si l'OM s'était imposé à Rennes, pas certain qu'il se serait passé cette chose-là. Donc voilà, c'est un état de fébrilité en tout cas. Ouais, étonnant. Et bon, voilà, à voir comment tout ça se résout. Mais ce qui est drôle, c'est de voir effectivement comment Villas-Boas a vrillé d'une année sur une autre. J'espère que sa vraie nature se rapproche plus de celle de la saison dernière, mais j'ai quand même un tout petit doute. Oui.
Je pense que c'est un personnage entier, voilà, il est très sympa, mais
exactement.
On peut lui taper dans le dos, mais si à un moment il répond, voilà, tout simplement. Mais c'est vrai, moi je le répète encore une fois en guise de conclusion, vu ce que fait l'OM en championnat, faudrait pas que ce soit eux qui gâchent le bon boulot réalisé, parce que encore une fois, les défaites en Ligue des Champions, c'est vrai que ça a été très compliqué pour l'OM, mais entre temps ils gagnaient, donc. Pas le feu, à eux de faire ce qu'il faut pour bien terminer l'année. Déjà, ce sera contre Reims, avant un dernier match de championnat mercredi, et puis après repartir sur la deuxième partie de la saison.
En parlant d'année qui se termine, comme chaque mois de décembre, les awards, les trophées The Best de la FIFA qui ont été décernés donc jeudi. Lewandowski a été élu meilleur joueur de l'année. Et on va revenir un petit peu sur ces awards, sur la façon dont ils sont justement décernés. Lewandowski premier, Ronaldo, Messi qui complètent le podium, une équipe type un tout petit peu, j'allais dire baroque, puisque Neuer n'est pas dans les buts, puis Lionel Messi figure dans cette équipe type. Il y a beaucoup de choses à dire. La première, Maxime, en tout cas moi, ce qui me heurte le plus dans ces awards-là, c'est de voir que Messi figure encore et toujours dans cette équipe-là. Plus que figurer dans cette équipe, il figure sur le podium. Donc, selon les votants de The Best, on va rappeler, hein, c'est les sélectionneurs et les capitaines des sélections nationales, de toutes les sélections nationales, plus une partie du vote qui est assignée à un jury, donc à un panel de journalistes et au public qui vote via les réseaux sociaux, me semble-t-il. Voilà, donc ça, c'est le mode de fonctionnement. Derrière tout ça, il y a beaucoup de copinage. Derrière tout ça, il y a des capitaines et des sélectionneurs qui votent pour des joueurs qu'ils côtoient à l'entraînement ou au match. Et donc, on arrive à un classement. Je ne comprends pas comment on peut justifier que Messi soit dans le top 3. Messi qui a marqué… Alors, si on me dit les stats de Messi… Il a marqué moins de buts en 2020, hein, parce que c'est sur l'année 2020 que Bruno Fernandes, que Lukaku, que Haaland ou qu'Immobile, par exemple. Il a gagné moins de titres, si on parle de palmarès, que Mbappé, Neymar, Salah, Benzema. Donc, je vois moi au moins 10 mecs qui mériteraient plus que lui de figurer dans ce classement. Et parmi ces 10 mecs, pour moi, c'est évident que Neymar doit figurer sur ce podium-là et dans cette équipe-là. Et je trouve ça d'ailleurs absolument scandaleux que Neymar ne figure pas dans l'équipe type et ne soit pas sur ce podium. Et je peux comprendre d'ailleurs l'amertume qu'il nourrit ces derniers jours. Hein. En tout cas, c'est son entourage qui nous dit qu'il a été un peu malheureux de ne pas le voir dans ce palmarès-là, ce que je peux comprendre. Mais on vote, voilà. J'ai l'impression qu'on vote parfois pour le meilleur joueur de tous les temps, pas pour le meilleur joueur de 2020. À un moment, faut arrêter de faire voter les copains. Quand Fernando Santos, le sélectionneur du Portugal, vote pour Ronaldo, quand Deschamps, hein, parce que nous, évidemment, hein, la France n'est pas, est aussi coupable. Quand Didier Deschamps, il vote pour Kylian Mbappé. À un moment donné, comment ça se justifie ce vote? Kylian Mbappé, meilleur joueur de 2020 devant Robert Lewandowski, ça n'a pas de sens. Je comprends qu'ils ne veulent pas créer de polémique. À la limite, ce n'est pas eux le problème. C'est plutôt le mode de scrutin qui décrédibilise tout, Maxime, pour moi.
Oui, complètement. Les FIFA Awards, tels qu'on les connaît, c'est depuis 2017. Souvenez-vous, entre 2010 et 2016, la FIFA s'est alliée à France Football pour faire un ballon d'or France Football FIFA avec des votes de sélectionneurs, de sélectionneurs, de capitaines de sélection, plus les journalistes. Déjà, c'était parfois un peu baroque sur les résultats, mais voilà. Avant ça, ça existait depuis 1991, le FIFA Player of the Year, comme on l'appelle. Et pour vous donner une idée, trois fois Ronaldo le Brésilien, trois fois Ronaldo le Portugais et trois fois Zidane l'avait remporté. Ça se tenait à peu près, voilà. Disons que ça a basculé, on va dire, avec les années 2010, parce que aussi c'est lié à Messi et Ronaldo qui ont pris toute la place, avec tout le marketing qui y va avec, avec tous leurs exploits. Si bien qu'aujourd'hui, c'est très compliqué de les éviter. Et voilà, moi, à mon avis, tu parlais du mode de scrutin, je pense que c'est un panel de votants trop large. Tu l'as très bien dit, les sélectionneurs, ils votent pour les copains, les capitaines, ils votent pour les copains aussi. Et quand un sélectionneur ne vient pas à voter pour son joueur, là, on se dit, oh là là, pourquoi il a fait ça? Bah oui, mais on peut pas dire tout et son contraire. Le but, ce serait qu'à la rigueur, il faut mettre une règle, tu ne votes pas pour un joueur de ta nationalité, pourquoi pas? A priori, ce serait pas gênant, puisque les grosses nations n'ont qu'une voix, donc voilà. Moi, je maintiens, alors je suis désolé, là je vais faire un peu de pro-journalisme, je pense que les journalistes sont toujours les mieux placés pour voter en général. Parce que, on va peut-être me dire, ah, il peut y avoir des conflits d'intérêts dans la presse. Bah oui, c'est-à-dire que le journaliste français, il a peut-être envie de voter Mbappé pour lui dire, écoute, t'as vu, j'ai voté pour toi, file-moi une interview. Mais c'est moins prégnant que les sélectionneurs et les joueurs qui jouent dans les clubs, parce que là, on demande de choisir entre un peu son père et sa mère, et résultat, c'est difficile parce que on sait qu'ils sont susceptibles. Tu as parlé de Neymar. Il est susceptible. Là, pour le coup, il a raison de l'être, même si je pense qu'il ne faut pas s'arrêter à ça si on n'a pas fini. Mais il a raison parce qu'au fond, qu'il soit derrière Messi et Ronaldo cette année, c'est un peu compliqué. À Eurosport, on a créé notre award cette année. C'était le Player of the Year. On a fait voter toutes les rédactions et notre podium, qui est discutable aussi, je ne dis pas, c'est Lewandowski, donc numéro 1, mais ça, il n'y a même pas photo, je pense, dans le monde entier, numéro 2, Neymar, numéro 3, Neuer. Il est peut-être discutable, mais en tout cas, il ressemble plus à quelque chose que ce qu'on a vu hier aux Awards de la FIFA. Et oui, comme tu dis, Neymar peut s'estimer lésé de ne pas être sur le podium, et aussi Neuer, tout simplement. Neuer, on va en reparler, parce qu'on ne vote pas seulement pour les joueurs de l'année, on vote aussi pour l'équipe de l'année. Et Neuer, il n'est pas dans l'équipe de l'année, c'est Alisson. Alors, avec tout le respect que j'ai pour Alisson, qui est un formidable gardien, si quelqu'un ici peut me confronter et me dire que Alisson mérite plus que Neuer d'être dans l'équipe de l'année, je veux bien l'écouter, mais il faudra être très fort, voilà. Mais c'est parce qu'il y a trop de votants, en fait, c'est trop ouvert, c'est un vote de fans, de fanboy, on vote pour les copains et tout ça, les supporters, ils votent pour leur joueur préféré, donc si vous avez plus de followers, vous poussez plus sur tel joueur. En un mot, ça ne rime à rien et ça décrédibilise complètement le trophée.
Maxime, il y a un exemple qui est frappant et qui illustre tout ce qu'on a dit depuis jusque-là. C'est Megan Rapinoe qui figure donc dans l'équipe type féminine de la FIFA et qui a tweeté qu'elle était très heureuse, très honorée. Enfin, je n'ai pas joué de match depuis le mois de mars. Et ce qu'elle dit derrière, elle estime que sa nomination illustre
je la cite, une nouvelle fois les investissements nécessaires qu'il reste encore à faire dans le football féminin pour offrir plus d'opportunités aux joueuses d'être vues à la télé et plus globalement lorsqu'elles évoluent pour leur club ou leur pays. Donc, en gros, ce qu'elle dit, c'est que les votants ne regardent pas les matchs et ne s'intéressent pas au football féminin. En gros, ils votent pour des noms. Voilà. Ouais. Donc, Rapinoe est aujourd'hui peut-être la joueuse la plus connue au monde. Elle figure dans une équipe type alors même qu'elle n'a pas joué depuis le mois de mars. Et ça, Maxime, ça en dit beaucoup quand même
sur
ces awards.
Mais c'est marrant parce qu'elle fait passer le message et très habilement dire voilà, bah, football féminin, a priori, vous n'y connaissez pas grand-chose, vous ne regardez pas. Mais l'argument, il est valable pour les hommes aussi. C'est ça qui est formidable.
Bien sûr.
Que c'est quand même une équipe qui, depuis 10 ans, a toujours 5 Barcelonais. J'exagère, hein, plus maintenant, mais il y avait tout le temps des Barcelonais, tout le temps des Madrilènes, quelle que soit leur saison. Marcelo était tout le temps là. Déjà, je suis étonné, cette année, il n'y a pas Piqué. Non mais Piqué, il est tout le temps là. Lui, il est tout le temps au banquet. Je ne sais pas s'il y a un truc, quand ça se passait à Zurich, il avait un rendez-vous à chaque fois, mais il était tout le temps là. Sauf que les hommes, eux, sur leur Twitter, ils disent merci, ils ne disent pas que c'est ridicule. Et c'est bien ce qu'elle a fait, parce que ça décrit... En fait, elle sert de ça pour passer le message du football féminin, et c'est très habile. Elle a complètement raison. Mais en même temps, ça décrédibilise le contenu, et dire que voilà, votez pour des matchs que vous ne voyez pas. Et au fond, c'est aussi... Vous votez aussi pour les matchs, alors à l'inverse, que vous voyez, c'est-à-dire vous voyez quoi ? Vous voyez Classico, vous voyez la Première Ligue, donc c'est un avantage monstrueux pour ça. Et je pense que Neymar, alors bah, ça c'est un choix qu'il a fait en venant Ligue 1, bah, il est un peu moins exposé, hormis pendant le Final 8 de la Ligue des Champions. Donc évidemment, ça frappe moins les esprits. Et c'est ainsi, voilà, mais c'est vrai que ça laisse songeur. Heureusement, j'ai bien heureusement, que ce n'est pas Messi ou Ronaldo qui ont gagné chez les hommes. Parce que alors là,
là ça aurait été un scandale absolu. On va passer au troisième sujet, on va revenir en Ligue 1 avec le LOSC et peut-être la fin du chemin pour Christophe Galtier. Alors pourquoi ? Pourquoi alors que tout va bien du côté de Lille ? Pour le coup, Lille est qualifié pour les 16e de finale de la Ligue Europa. Lille surfe sur une dynamique incroyable en Ligue 1. Hein. Ils ont les commandes de la Ligue 1. Qui l'eût cru ? À cette période de l'année, il y a un choc qui se profile face au Paris Saint-Germain dimanche. Tout va bien, Galtier nous sort des joueurs, tire le maximum de son équipe depuis maintenant quelques mois, quelques années. Bref, tout va bien, mais il y a une crise de gouvernance. Luis Campos, déjà, est sur le point de quitter le LOSC. Alors, ce n'est pas encore officiel, hein, Luis Campos, mais ça ne devrait pas tarder à l'être. Et de toute façon, c'est dans l'air depuis quelques jours, quelques semaines maintenant. Et c'est Gérard Lopez qui va quitter le sommet, la direction, la présidence du LOSC. Olivier Létang va être nommé. Et donc, Christophe Galtier, qui est quand même un homme de conviction, un homme aussi qui met l'humain avant tout, un homme d'amitié, et on se demande si Christophe Galtier va pouvoir tenir le navire, Maxime.
Est-ce que tu connais Callisto Sporting et Elliott ?
Alors Elliott, c'est un fonds d'investissement, Callisto voilà. Sportif aussi peut-être
Sporting,
sans doute,
je sais pas. Bah c'est le prochain en fait.
Ah, d'accord.
Moi ça me rend, alors déjà je voudrais démarrer là, par ça me rend triste, parce que ça c'est ce que j'appelle le football CTLM. C'est-à-dire qu'on fait des prêts, on contracte des dettes, et à un moment, quand ça ne rembourse plus, eh ben, il y a le fonds d'investissement qui vous a prêté l'argent, qui vous dit « Dis donc Gérard, il manque 123 millions, là. Tu vas les trouver où ?» Donc en gros, c'est ça l'idée. C'est qu'il y a eu le Covid, il y a eu la pandémie, il y a eu Mediapro qui n'a rien arrangé à tout ça, et donc le fonds d'investissement, il dit « Il manque quelque chose, là. On va avoir des problèmes à rembourser. » Il est poussé dehors, tout simplement, vers un autre, et il va être remplacé par un autre fonds d'investissement qui est Callisto Sporting et qui va mettre Olivier Létang à la tête du club, a priori. C'est même quasiment acté. Je le répète, c'est le football CTLM, c'est tout ce que j'aime pas. Malheureusement, c'est comme ça. Et en plus, ce qui est triste, c'est qu'à un moment, on a pensé, je sais pas toi Martin, ce que tu en penses, que Lille, finalement, réussissait à construire quelque chose en dehors de ça. C'est-à-dire qu'avec... Moi, je suis pas fan du système de trading, mais on avait l'impression que finalement, en vendant très cher les joueurs comme Osimhen, comme Pépé, bah, ils arrivaient à réussir à l'équilibre. Mais en fait, non, on se rend compte que c'est jamais une solution.
Le problème, c'est que c'est un club qui est fondé sur une grosse dette. Quoi. C'est un gros problème. Quoi. C'est un club spéculatif. Quoi. C'est très, très compliqué.
Et comme tu l'as dit très bien avec Galtier, c'est du spéculatif. Mais Galtier, lui, il est dans les motifs, on va dire. Il est dans l'affect. Et lui, exactement. Ce qu'il voit, c'est que il va perdre le président qu'il a fait venir, avec qui il a une relation très, très importante et très, très proche. Luis Campos, on était les premiers à le dire sur Eurosport qu'il avait demandé à quitter Lille. A priori, ça va se terminer aussi. Donc, résultat, ce qu'il voit, c'est qu'il y avait un triumvirat, en plus avec des postes et des positions très affirmées. Galtier, lui, il n'a pas envie de s'occuper du travail de Campos. Il y a des entraîneurs qui ont envie d'avoir tout le pouvoir d'être manager. Galtier, lui, c'est le terrain. Les agents, il dit, moi, j'ai déjà donné, j'ai pas envie de m'occuper de ça. C'est Campos, le président, celui qui préside. Moi, je m'occupe du terrain. Et là, ce qui va se passer, c'est que ses acolytes vont partir. Il va se retrouver un peu seul dans le navire avec Olivier Létang. Et oui, Martin, on peut se demander si c'est pas le pire moment pour Lille, notamment parce que Galtier, on sait qu'il a une cote maintenant qui est formidable, notamment en France. Et on peut imaginer que le prochain grand club français qui laissera partir son entraîneur sautera sur Galtier parce qu'en effet, il a le vent en poupe et c'est l'entraîneur qu'il faut, on va dire, aujourd'hui. Donc c'est triste pour Lille, c'est triste pour Galtier et ça sent un peu la fin quand même, même si c'était pas pour cet hiver. J'ai l'impression qu'en juin prochain, on passera à autre chose.
Oui, mais on le sent quand même dans ses déclarations, dans ses interviews, dans ses réactions d'après-match. Il disait, au sujet du départ de Campos, je dois attendre de savoir ce qui va se passer au club. Donc, on sent qu'il était lié à Campos, très lié à Gérard Lopez, puisque après le match de mercredi, il parlait encore de son président, mon président Gérard Lopez, mon président, mon président. Avouant que la nuit avait été dure, que c'était compliqué cette journée. Il avait une mine défaite alors qu'il venait de gagner. On sent qu'il prépare peut-être quelque chose. On sent qu'il prépare peut-être quelque chose. Galtier, on sait que dans la com, il est très très bon. C'est peut-être l'un des meilleurs d'ailleurs en France. Tu l'as dit, il était manager général à Saint-Etienne. Donc il avait tous les pouvoirs. Il a senti qu'il s'usait au fil du temps. Que c'est un rôle qui lui pompait trop d'énergie et donc il ne pouvait pas donner le meilleur de lui-même sur le terrain. Ce qu'il a fait à Lille, puisqu'il a été, puisqu'on lui a enlevé certaines fonctions, ce qui lui est très bien, ce qui lui a permis de mieux s'exprimer en tant qu'entraîneur. Et ça fonctionnait bien ainsi. Il savait en plus que Lille allait vendre ses meilleurs joueurs. Il savait qu'il construisait sur du sable. Hein, il l'a toujours dit. Mais ça lui allait bien et ça fonctionnait bien comme ça. Là, de tout remettre à plat, de tout remettre en cause, connaissant un petit peu Christophe Galtier, comment il fonctionne. En plus, s'il faut vendre à foison cet hiver ou dans les mois qui viennent, si les 6 prochains mois se passent mal, il vaut peut-être mieux partir en étant leader et avoir une image immaculée en fait, plutôt que d'être l'entraîneur de Lille, la décrépitude. On sait jamais comment ça peut se passer. Donc, c'est vrai qu'il va y avoir un choix qu'il va devoir faire. Et comme tu l'as si bien dit, si aujourd'hui Christophe Galtier quitte le LOSC, demain, le prochain entraîneur de Marseille ou de Lyon, en fonction du premier qui se séparera de son coach, ce sera lui. Ce sera lui parce que sa cote, elle est au plus haut. Et Marseille, on sait que c'est un rêve de Christophe Galtier. Lyon, on sait que ça peut le botter aussi. Il était adjoint avec Alain Perrin. Donc il y a un choix à faire, une stratégie, une direction à prendre, en tout cas, pour pas non plus être avoir le LOS qui devient un boulet à son pied. Mais en tout cas, c'est une situation assez triste parce que il y avait quelque chose qui s'était dégagé, mais à un moment, la réalité, et ça, je trouve ça bien aussi, que la réalité financière rattrape Gérard Lopez et le club de Lille, qui ne peut pas non plus impunément, comme ça, continuer à sans qu'on lui tape un peu sur les doigts.
Ouais, et puis là, la situation est compliquée, mais cet hiver, a priori, sur les dernières infos, il ne serait pas obligé de vendre, plus ou moins. Mais n'empêche que ça va venir à un moment ou à un autre, parce que si les ventes qui était, on le rappelle, très bonne. Je veux dire, au Simen, Pépé, c'est pas une paille ce qui a été vendu.
Cela dit, ils n'ont pas suffisamment vendu cet été quand même, malgré
oui,
tout.
Mais c'est, en fait, là, c'est inextricable. C'est-à-dire que s'ils vendent plus, ils ne sont pas là où ils sont aujourd'hui. Donc, c'est que le modèle ne peut pas fonctionner. Et c'est quoi le modèle de Lille? Après, c'est de dire, faut vendre des joueurs, terminer dans les 3 premiers ou dans les 4 premiers. C'est compliqué, on ne peut pas monter là-dessus. Moi, je suis toujours très.
En fait, le truc, c'est que. Il ne faut pas que Galtier devienne le Jardim de Monaco.
Voilà, exactement.
Ça t'était très bien passé, mais ça fonctionnait avec Vassiliev, notamment, Campos et Jardim. Ça fonctionnait à merveille, ces trois-là. Il y a eu en plus une génération exceptionnelle avec Mbappé. Ils ont été champions de France, machin. Parfait. Et puis, ça s'est. Ouais. Campos est parti. Ça s'est un peu.
Le problème, c'est que les gens ont la mémoire courte. C'est-à-dire Jardim, c'est un très bon exemple, parce que Jardim. Un moment, c'est limite, il va être entraîneur de Monaco à vie, j'exagère évidemment, mais ce qu'il fait, c'est très bien, il a un peu le droit à l'erreur hein, quand même. Sauf qu'au premier cas, Gadin, on se dit, il n'est peut-être plus aussi bon que ça.
Et, c'était pas bon pour Monaco et c'était pas bon pour Jardim, parce que son image en a quand même pâti.
Et si Lille venait à régresser, On dirait, bah oui, les finances, oui, mais Galtier en prendrait plein la poire aussi, parce qu'il est forcément en partie responsable de ça. Donc pour lui, il va se poser la question du quand faut-il partir, à quel moment, voilà. Et c'est vrai que moi, je pense pas cet hiver, je pense pas, à moins vraiment d'un changement, mais là, si l'étang le fait sortir, c'est qu'il a rien compris. Mais je pense que
ça viendra
l'été prochain, ouais, voilà, ce sera plus compliqué. C'est dommage parce que c'était Lille qui a publié, parce que c'était son 100e match à la tête du LOSC mercredi, et le site, le losc.fr, a mis quelques statistiques, et c'est par exemple le deuxième entraîneur le plus, après 100 matchs, le plus victorieux. Donc c'est pas n'importe quoi, c'est pas rien. Parce que là, on parle de sa réussite maintenant, mais souvenez-vous dans l'état où il a repris le club. Oui. Après Bielsa, c'était un champ de ruines, c'était très compliqué. Donc franchement, c'est un vrai gâchis, mais malheureusement, c'est un gâchis de l'époque aujourd'hui. C'est-à-dire que on ne peut pas fonctionner sur une dette indéfiniment. Mais c'est malheureux, mais c'est ainsi.
Allez, on va terminer avec un petit bonbon de Noël qu'on aurait pu glisser dans votre calendrier de l'Avent. On vous a proposé cette semaine, notre community manager, monsieur Rémi De Souza, qui se croit brésilien parce qu'il a un nom à consonance lusitanienne, mais faut qu'il arrête tout de suite hein, quand on le voit sur un terrain. Il est très très loin du Brésil, Rémi De Souza. Bref, il vous a demandé de voter pour le plus grand attaquant français de l'histoire parce que Zinedine Zidane, lui, a voté pour Karim Benzema. C'était après la victoire du Real cette semaine. Il a dit que Karim Benzema était, et que ça ne faisait pas de doute pour lui, le meilleur attaquant français de l'histoire. Alors, on vous a proposé une sélection. Et voici vos cinq premiers, Maxime. Alors, Maxime, est-ce que tu as quelque chose à rajouter peut-être ?
Ah bah toujours moi. Non, quand Zidane parle, on l'écoute. Mais alors pour vous expliquer la sélection, on a pris des attaquants axiaux. C'est-à-dire que dans l'attaquant, il y a Franck Ribéry, mais on n'a pas pris les joueurs de couloir. On a pris ce qui ressemblait à Karim Benzema, c'est-à-dire un 9 ou un 9 un peu élargi, parce qu'on sait que Karim Benzema, c'est bien plus que ça. Donc on vous a proposé une dizaine de noms. Et voici le top 5 avec le numéro 5 qui est David Trezeguet. David Trezeguet, 71 sélections, 34 buts. Champion du monde 98 tout jeune, le but évidemment en finale de l'Euro 2000, une marque sur l'équipe de France, mais une expérience contrariée parce qu'on le sait, quand il est devenu vraiment titulaire, ça n'a pas forcément bien marché et ça s'est même carrément très mal terminé avec Raymond Domenech jusqu'à sortir de l'équipe de France, je crois que c'était en 2007. Sa carrière en club, la Juventus, Monaco notamment, voilà une très grande carrière, un buteur, sûrement le buteur le plus. Peut-être le plus fin, le plus racé de l'histoire de l'équipe de France et du football français.
En numéro 4, et c'est là qu'il commence à y avoir un petit débat, sans doute, qui va nous nourrir, Maxime. En numéro 4, c'est Olivier Giroud. Olivier Giroud, champion du monde donc avec l'équipe de France. Deuxième meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Et ça, c'est un de ses faits d'armes majeurs. Hein, quand on regarde forcément le classement des meilleurs attaquants français de l'histoire, forcément, Giroud, c'est un argument de poids. Parce que lui, contrairement aux autres, il a une carrière en club qui est un peu plus compliqué. Alors, il a joué dans des grands clubs, hein. C'est pas le problème. Arsenal, Chelsea, il a fini par s'y imposer parfois, pas tout le temps. Il est aussi très souvent passé par la case bande-touche. Et sa carrière en équipe de France, quand même, c'est son principal argument dans ce classement-là. Il a aussi été champion de France avec Montpellier, ce qu'on a un peu tendance quand même à oublier, en terminant meilleur buteur de Ligue 1. Mais c'est avant tout, ce qu'on retient, c'est qui plante tout le temps en équipe de France. Alors, pas à la Coupe du Monde 2018, il avait planté à la Coupe du Monde 2014 en revanche. Il a dépassé les 100 sélections. Au-dessus de lui, il y a juste Thierry Henry maintenant. C'est pour ça, Giroud qui a autant d'admirateurs que de gens qui le détestent. Est-ce que toi, Maxime, tu l'aurais mis au-dessus de Trezeguet ? Moi, personnellement, ça ne me choque pas pour sa carrière justement en équipe de France.
Ouais, j'aurais peut-être mis encore un petit peu Trezeguet devant. Voilà, tout simplement parce qu'il y a la carrière en club et il y a le poids. Encore une fois, ce qui est marrant, c'est que il y en a un dont on regrettait qu'il n'était pas titulaire, mais une fois qu'il l'a été, ça s'est pas bien passé. Et il y en a un autre, des fois, dont le grand public dit qu'il ne devrait pas être titulaire, mais pourtant, quand il y est, ça se passe très bien. Donc, c'est ça qui est pas particulier. Et si je devais donner, si on en reparlera pour Benzema, notamment tout à l'heure, la petite différence, là, je pense, c'est la carrière en club qui est un peu plus haute que Giroud, qui aujourd'hui, pas en ce moment évidemment, est plus un super sub qu'autre chose. Donc, je mettrai encore Trezeguet devant, mais je pense que c'est vraiment pas éternel parce que déjà si Giroud passe devant Henry au nombre de buts en équipe de France, ça pèsera un peu dans le bilan final.
En tout cas, ça m'a un peu étonné moi que les internautes mettent Giroud dans Trezeguet, mais je le comprends tout à fait.
Mais Maxime, c'est un peu l'éternelle histoire de la majorité silencieuse, c'est-à-dire que oui, tout le monde se plaint de Giroud, 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 Nous, on ne fait pas partie de cela, on doit le dire, parce que justement, on sait qu'il a son importance en équipe de France et que c'est sûrement le joueur qui colle mieux au jeu de l'équipe de France et à Mbappé et à Griezmann et dont l'équipe de France a besoin. Et on entend toujours, ouais, Giroud ceci, Giroud cela. Bah ouais, mais la preuve, c'est que quand vous votez, en plus, c'est, on a eu 37 000 votants.
38, je crois, ouais.
38 000 votants. Énorme. Donc, c'est pas rien non plus, c'est pas 400 personnes qui ont voté.
Le numéro 3, Maxime, c'est pas que je vais me taire, mais c'est là, si vous avez des petits-enfants, si vous avez des parents, des sœurs, des frères, des oncles, des cousines, appelez tout le monde. Là, ça va être un moment de grâce. Ça va être le moment que Maxime réclame. Dans la... Chaque fois qu'on fait une réunion sur le FC Stream Team, il me dit « il faut qu'on parle de Jean-Pierre Papin ». Là, Maxime, c'est ton heure. Je vais te laisser l'antenne. J'ai envie quasiment de disparaître parce que Jean-Pierre Papin, c'est pour toi, c'est ta jeunesse, c'est ton Dieu. C'est celui qui t'aime. Voilà.
Non, mais alors, jusqu'à preuve du contraire, c'est le seul ballon d'or de tous ceux qui sont ici. Hein. C'est quand même, mine de rien, ballon d'or 1991. D'ailleurs, je vais faire même de la pub pour nos autres podcasts. Vous savez qu'on a un autre podcast qui s'appelle « Qui c'est le plus fort ?» et on en avait fait un consacré aux meilleurs 9 de l'histoire des Bleus. J'y viens, vous allez voir, c'est une petite astuce. Donc, je vous invite à l'écouter parce que je redis à peu près tout ce que je vais dire maintenant, mais en beaucoup plus long parce que là, je vais quand même pas tenir.
Alors, Maxime, par contre, ça ne dépasse pas 2 minutes. S'il te plaît.
Donc, Jean-Pierre Papin, 54 sélections, 30 buts. Déjà, le ratio, il est formidable. Et surtout, ce qui est formidable, c'est que Papin, il arrive à la fin de la génération Platini. Il joue la Coupe du Monde 86 et il va disparaître avant la vraie génération Zidane. Il en est là au début. Donc, lui, il est dans la traversée du désert avec Cantona. Et finalement, c'est la mauvaise personne au mauvais moment. Mais c'est 30 buts en 54 sélections. Et à l'époque, je le répète, alors ça va faire très vieux aussi. Mais le mur n'est pas encore tombé et il y a beaucoup moins de petites sélections de l'autre côté du mur. Donc, il joue des adversaires quand même beaucoup plus forts et c'est quand même remarquable. Voilà. Une fois que j'ai dit ça, je n'ai pas dit grand-chose parce qu'après, il faut parler de sa carrière en club, Jean-Pierre Papin. Finaliste de la Ligue des Champions ou de la Coupe d'Europe des clubs champions avec l'Olympique de Marseille en 1991. 5 fois meilleur buteur du championnat de France, le fer de lance de l'OM et surtout un des très, très gros premiers transferts d'un joueur français à l'étranger, on va dire depuis Michel Platini. C'est évidemment à l'AC Milan qui, à l'époque, met l'équivalent de 82 millions de francs sur son nom. C'est énorme. Voilà, Papin, surtout, c'est un style, ses débuts, c'est des highlights, début de Papin, vous regardez sur YouTube, c'est exceptionnel. Il a marqué aussi par son style, qui a été un petit peu ringardisé par les attaquants dont on va parler après, mais c'est pas pour ça qu'il faut l'oublier, parce que son sens du but était exceptionnel. Et je trouve qu'il est à peu près bien à sa place dans le classement, même si j'aurais peut-être un peu hésité avec le numéro 2 quand même.
Mais tu nous as pas parlé de son aventure au Bayern Munich.
Oui, alors son aventure au Bayern Munich, on peut y aller. Bah oui, mais alors ça résume assez bien. Il est blessé pendant quasiment 2 ans. Il gagne quand même une coupe de l'UEFA face à Bordeaux.
C'est pas forcément grâce à lui, mais
il met le but de l'année contre Werdingen, je crois un truc. Je crois que c'est ça.
Et puis j'aurais il est blessé. Relancer. Pourquoi je l'ai relancé?
Non, mais il est blessé tout simplement. Et ce qu'il faut savoir, parce que je vais continuer un petit peu, il revient à Bordeaux après. Première saison, il met 15 buts, je crois, ce qui est pas mal pour un papy entre guillemets. Et ce qu'on sait, c'est que Jacquet n'était pas contre le fait, potentiellement, de le prendre dans son groupe, parce qu'en avançant, il y avait un petit creux, et malheureusement, il est moins bon l'année de la Coupe du Monde, donc ça lui l'a exclu complètement de l'équipe de France. Mais ça aurait été, je pense qu'avec Papin, en pointe, en 98, on gagne la Coupe du Monde, aussi, parce qu'on l'a gagné quand même.
On termine avec les deux premiers... Voilà, il y a pas trop de mystère sur l'identité.
Oui, parce que c'est vous qui avez voté, hein, on vous rappelle, c'est pas nous qui...
Quand vous allez connaître, et ils sont assez largement en tête. Hein. C'est un duo qui s'est largement détaché. Et en numéro 2, c'est donc Karim Benzema. Donc, vous n'êtes pas d'accord avec Zinedine Zidane, Karim Benzema, qui souffre sans doute aussi de sa carrière qui s'est arrêtée peut-être un peu trop tôt, hein, même s'il y a plus de 80 sélections, mais qui s'est sans doute arrêté un peu trop tôt avec l'équipe de France et notamment sur cette Euro, cette Coupe du Monde, qui ont quand même couronné une génération dont il faisait partie au départ, mais dont il recueillera pas les lauriers en fait. Mais sinon, en club, c'est peut-être avec le premier et peut-être avec Cantona aussi, c'est peut-être les trois joueurs qui ont la carrière en club la plus iconique. Hein, Benzema qui est maintenant le joueur étranger qui a joué le plus de matchs avec sans doute le plus grand club de l'histoire, le Real Madrid, qui a gagné une pelletée de Ligue des Champions, qui est aujourd'hui l'incarnation du Real Madrid avec Sergio Ramos, je dirais. Donc c'est pas rien dans une période où le Real Madrid continue de gagner puisqu'il a été champion d'Espagne il y a quand même quelques mois, un champion d'Espagne dont il a été élu meilleur joueur, un buteur hors pair, il est dans le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire de la Ligue des Champions, mais peut-être même dans le top 5 maintenant.
Top 5, je crois.
Ouais, voilà. Donc, c'est une carrière en club absolument extraordinaire, extraordinaire. Et il y a que le numéro 1 et Cantona qui peuvent s'en rapprocher. Et pourquoi il est de... Non, t'es pas d'accord avec ça?
Michel.
Ah oui, Michel Platini, évidemment, mais il n'est pas. Ah, c'est plus un. Est-ce que c'est un attaquant, Michel
Platini?
Ah oui,
oui. Non, mais je croyais que tu parlais. Ah oui, pardon. Autant pour moi. Non, mais je pensais que tu parlais des joueurs français qui avaient marqué les. Non, autant pour moi. T'as complètement raison.
Non, je m'étais. Non, parce qu'il y a aussi Ribéry aussi dans ce cas-là, peut-être aussi du Bayern Munich. Mais bref. Tout ça pour dire que voilà, c'est peut-être son aventure en bleu qui fait qu'il n'est pas premier, parce que le premier, évidemment, Maxime,
c'est Thierry Henry,
champion du monde, et il a gagné l'Euro.
Ouais, voilà, et comme tu le dis, c'est vrai que, alors, je ne sais pas si les Bleus auraient gagné la Coupe du Monde 2018 avec Benzema en pointe, parce que je sais ce que vous allez dire, il est plus talentueux que Giroud, etc., vous avez complètement raison, sauf que une équipe, ce n'est pas une addition, d'addition, parfois, en soustrayant, on a un autre équilibre, voilà. Mais c'est sûr que s'il avait gagné la Coupe du Monde 2018 avec les Bleus, on n'aura peut-être pas le même regard. Voilà, maintenant, comme l'a dit très justement un certain Cyril Morin, journaliste de talent qu'on appelle Coin Coin aussi, il me semble, c'est ça, non?
C'est ça, ouais, c'est un petit canard.
Voilà, d'Eurosport.fr. C'est pas tout. Je crois que c'est lui qui a dit ça, qui l'a écrit dans son papier. C'est pas tous les jours qu'on met des statues devant un stade, et il se trouve que Thierry Henry a la sienne devant l'Emirates, et ça vous pose un joueur. Alors évidemment, le Real Madrid et Arsenal, c'est pas la même stature exactement, ça c'est certain, mais n'empêche que le poids de la carrière de Thierry Henry à Arsenal est exceptionnel dans une première ligue qui est à l'époque au sommet du sommet du sommet. Et voilà, et puis en plus, il y a l'équipe de France, 123 sélections, 51 buts, champion du monde, champion d'Europe, finaliste de la Coupe du monde 2006. Voilà, lui aussi a eu une fin un peu contrariée avec l'équipe de France, on le sait, mais c'est quand même un joueur à 4 Coupes du monde. Je pense pas qu'aujourd'hui il y ait une giga différence, mais la différence, elle se joue aussi sur le fait que, on l'a souvent répété, c'est que l'un était numéro un dans son club, était la tête d'affiche. Benzema l'a pas toujours été, parce qu'évidemment il y avait Cristiano Ronaldo. Donc il y a ce petit côté fer de lance qui manque, parce que si, encore une fois, si Benzema ou gagne la Coupe du Monde 2018 ou est le fer de lance du Real sur les 4 Ligues des Champions, je pense qu'il n'y a pas débat, voilà. Mais ce qui est intéressant dans votre vote, c'est que vous avez voté donc Henry devant Benzema, et que l'écart n'est pas si grand que ça. Et c'est vraiment, comme tu l'as dit, Martin, les deux qui se détachent de très loin. Et je suis quand même globalement assez d'accord avec votre classement.
Voilà, donc on est réconciliés, vous et nous, Maxime et vous. Donc merci déjà à tous les votants. On vous dit plus de 38 000 votants, donc c'est quand même costaud. C'est costaud. C'est un vrai vote qui veut dire quelque chose. Merci Maxime. Alors moi, c'était mon dernier FC Stream Team de l'année, donc on se retrouvera en 2021, parce que moi, la semaine prochaine, à cette heure-là, je fourrerai la dinde avant de la déguster le soir avec un petit verre de, je ne dis pas la marque, mais voilà, vous avez compris. Pendant que Maxime charbonnera un petit peu, les rôles sont inversés. Hein, les rôles sont inversés, puisque d'habitude, c'est Maxime qui se la coule douce, vous le savez très bien.
Alors l'émission, ce sera jeudi d'ailleurs, parce qu'on va quand même pas travailler le 25, faut quand même pas déconner. je n'ai pas signé pour ça. Donc voilà, et on vous rappelle quand même, c'est notre cadeau de Noël, Football Manager 2001, le jeu qui vous prend de 8h du matin à 2h du matin, puisque vous ne voyez pas le jour quand vous commencez à jouer, c'est tellement passionnant, tellement prenant, et on vous offre 2 codes pour avoir le jeu, donc vous partagez l'émission sur la page Facebook et on tirera au sort 2 d'entre vous qui ont gagné, qui ont le droit de jouer pendant toutes leurs vacances et peut-être même pendant tout le réveillon, voilà. Alors on va pas vous souhaiter un joyeux Noël, parce que comme Martin l'a dit, l'a rappelé, moi je travaille la semaine prochaine, donc je vous souhaiterai jeudi, mais Martin, je te souhaite un très joyeux Noël dans ta famille, avec la dinde et tout ça, comme tu veux. Passe de très bonnes vacances et je te dis à l'année prochaine.
Merci, merci à tous, merci Adrien derrière la caméra, merci Quentin, j'espère que j'aurai mon bonus de fin d'année, je serai à la fin de cette émission, mais j'ai pas trouvé trop méchant avec Maxime, donc...
C'est lié à l'audience de l'émission.
Alors, mettez des étoiles et partagez-moi cette foutue émission. Mince, moi j'ai des cadeaux à offrir aux gamins. On se donne rendez-vous en 2021 pour ma part, et à la semaine prochaine avec Maxime. Ciao, ciao, ciao. Bisous à tous. Allez.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about...
Coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.